Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute l'équipe que vous connaissez qui m'aide chaque jour à préparer les dossiers qu'on évoque dans l'émission. Justine Vigneault, Laure Broulard et aujourd'hui c'est André Facetta qui est avec nous à la technique de cette émission. Et à la une, vous l'avez entendu peut-être quand on en parlait tout à l'heure avant les infos avec Christelle Rebière et Vincent Parisot, il y a ce phénomène des clowns agressifs dont on parle beaucoup en France depuis maintenant quelques semaines, on va dire. Avant, ce phénomène s'est répandu également en Allemagne, dans des pays nordiques, en Angleterre. Alors évidemment, ces clowns n'ont tué personne, mais nous avons eu la curiosité d'essayer de trouver l'histoire qui peut-être a créé les premières légendes urbaines ou les premiers imitateurs, malheureusement. Et ça se passe aux États-Unis à la suite de la condamnation d'un des pires tueurs en série de l'histoire américaine. C'était John Wayne Gacy, dont on va beaucoup parler avec mon invité Stéphane Bourgoin. Bonjour Stéphane Bourgoin.
Bonjour Jacques.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes incontournable quand on parle de tueurs en série parce que, évidemment, il fait partie des plus de 70 tueurs en série que vous avez rencontrés pendant leur incarcération et en l'occurrence pour John Wayne Gacy, 2 ans avant son exécution. Et puis près de vous, Damien Delceni. Bonjour Damien.
Bonjour Jacques.
Damien Delceni suit le dossier des clowns agressifs. Alors, ne créons pas de psychose, on est bien d'accord. Vous suivez pour la rédaction d'RTL tout ce qui se passe autour de ça. Ça se calme ou pas?
Un petit peu, d'abord parce que c'est la fin des vacances scolaires et que ce phénomène a été amplifié par le fait que beaucoup d'enfants étaient en vacances depuis 15 jours.
Ouais,
on va expliquer peut-être pourquoi après. Donc oui, ça s'est calmé. Il y a encore eu des faits ce week-end, alors qu'ils étaient en plus en marge des festivités d'Halloween où beaucoup de gens se déguisaient, notamment en clown.
Ouais.
Donc on a encore eu des phénomènes de clowns agressifs ou menaçants, ça dépend comment on les appelle. Mais je pense que c'est un phénomène qui va s'arrêter assez vite, puisque comme toutes les modes, au bout d'un moment, ça passe, quoi.
Voilà, oui. Alors, vous disiez, on va en parler tout à l'heure, parlons-en maintenant. Tout le monde a essayé de comprendre un peu comment c'est répandu comme ça, à la fois cette rumeur et puis ensuite cette réalité.
Effectivement, il y a des gens qui ont fait des rencontres qui leur ont fait peur.
Hein.
Exactement. Ça a été d'abord effectivement comme une rumeur, c'est-à-dire qu'il y a eu un fait qui s'est passé dans le nord de la France.
Ouais.
On a parlé effectivement de la présence d'un clown qui avait agressé plusieurs enfants, qui les avait fait chanter, qui leur avait demandé de l'argent, qui avait un couteau, etc.
Mm-hmm.
Cette information-là a d'abord été démentie de façon quasi officielle, c'est-à-dire on a dit non, tout ça est une invention, ça n'existe pas. Sauf que dans les heures et les jours qui ont suivi, on a eu en France une espèce d'épidémie de faits avec des clowns dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Qui apparaissait un peu partout avec à chaque fois un peu le même scénario, c'est-à-dire il s'attaquait beaucoup à des enfants, il y avait parfois carrément de la délinquance pure, c'est-à-dire on rançonnait des gens dans la rue,
des petits malins qui se sont dit tiens c'est la mode.
Exactement. Et alors après on a eu un phénomène encore plus surprenant, c'est que sont apparus les chasseurs de clowns. Alors tout ça répond du même phénomène, c'est-à-dire que c'est une preuve de plus de parfois du côté très négatif des réseaux sociaux, c'est-à-dire que le phénomène des clowns agressifs en France il se démultiplie grâce aux réseaux sociaux et grâce aux vidéos qui sont vues sur Internet. C'est-à-dire qu'on s'inspire de ça. Après, tout le monde les voit, tout le monde en parle. On se connecte sur des pages Facebook.
Mm-hmm.
Et là, de 1, 2, 3, 15 personnes au courant, ça devient des milliers de gens qui s'approprient un peu le phénomène. Alors, les chasseurs de clowns, ça a été beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on a eu des pages entières sur Facebook avec des jeunes, parfois même souvent mineurs, qui ne se connaissent pas entre eux et qui se donnaient rendez-vous, par exemple, à Bordeaux, ça a été le cas. Ils se sont donné rendez-vous dans le centre-ville de Bordeaux pour aller chasser du clown.
Ouais.
Et aucun de ces jeunes ne se connaissait 2 heures avant.
Voilà, mais ça aurait pu déboucher sur des vrais drames, quoi. En fait,
oui, parce que souvent ils étaient armés avec des couteaux, des barres de fer, etc. Et ils cherchaient des clowns un peu partout dans les rues.
Je reviens à vous dans un instant, Damien Delceni, mais je vois Stéphane Bourgoin, on parlait ensemble juste avant le début de cette émission. Aux États-Unis, ça a pris aussi de l'ampleur. Mais là, tout récemment, là, il y a eu un mort, il y a quelques jours.
Parce que existe depuis maintenant presque une dizaine d'années, des gangs qui sévissent dans 4 États différents, qui ont été considérés parmi les 10 gangs les plus dangereux aux États-Unis par le FBI, qui s'appellent les Juggalos, oui. Et qui sont déguisés avec des maquillages de clowns.
Mais là, c'est pas une mode, là. C'est non. Parce qu'ils ont trouvé que c'était parfait pour ne pas être identifié.
Oui, et il y a toute une contre-culture autour aussi de musiciens qui sont de rap ultra-violent qui s'appelle le Deathcore et qui est basé sur un groupe notamment qui s'appelle Insane Clown Posse et qui font tous leurs concerts déguisés en clowns. Et des membres de son gang ont déjà commis beaucoup de meurtres, mais sont aussi spécialisés dans les braquages. Ils font des braquages déguisés en clowns et ils font du trafic de stupéfiants.
D'accord. Et là, il y a eu un mort.
Il y a eu un mort à Detroit. Un des membres de ce gang affrontait un gang rival et il y a eu un mort.
Alors ici, il y a des maires qui ont dû prendre des arrêtés municipaux, Damien Delceni, j'ai vu
ça. Des proportions assez délirantes, parce qu'on a même eu fait assez rare en France un communiqué de la Direction Générale de la Police Nationale qui, la semaine dernière, a dit écoutez, stop.
Les gendarmes sont même intervenus sur Facebook, ce qui était très malin de leur part, parce que c'est là que ça se passe.
Pour mettre fin à cette espèce, c'était une espèce de lame de fond qui, en quelques jours, alors en plus, il y avait le problème que beaucoup d'enfants voyaient des clowns partout dans les rues, des riverains voyaient des clowns partout dans les rues, donc la police, elle a passé 3-4 jours à courir après des clowns qui existaient ou qui n'existaient pas, à courir après des chasseurs de clowns qui cherchaient des clowns qui n'existaient ou qui n'existaient pas. Bah, ça a pris des proportions un petit peu délirantes vraiment pendant 3-4 jours.
Ce qui est terrible, c'est pour les vrais clowns. Les vrais clowns, mais je veux dire que il y a des gens très estimables qui vont effectivement, alors je vais pas dire comme John Wayne Gacy, parce que on va faire le point sur tout ça tout à l'heure avec vous, Stéphane Bourgoin, mais qui vont dans les hôpitaux, qui essayent d'enjoliver un petit peu un passage difficile pour des enfants malades, et qui là, j'ai lu ça, je sais plus dans le Parisien, je crois, l'interview d'un clown qui disait, pour la première fois de ma vie, je suis arrivé là, on m'a dit il y a des enfants qui ont peur de voir un clown, quoi. Donc c'est...
Non, mais ça a eu des conséquences assez inattendues et c'est vraiment, je le redis parce que c'est vraiment la base de ce phénomène, c'est toute la puissance et parfois la dangerosité des réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout va à une vitesse telle et tout le monde est tellement connecté via ces réseaux-là que ça prend ce que d'habitude ce serait peut-être éteint en 2-3 jours ou aurait mis des semaines à croître, là en quelques heures, ça explose, ça a devenu un phénomène national.
Et espérons qu'en quelques heures ça fasse pchit.
C'est fort probable, c'était espéré effectivement.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait le point avec nous, Damien Delceni. Stéphane Bourgoin, un mot, puisque je vous ai vu réagir sur les derniers mots de Damien.
Oui, tout à fait. C'est vraiment les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, parce qu'il y a par exemple des vidéos qui sont devenues virales, qui ont été vues jusqu'à 12 millions de fois sur des faux clowns tueurs, des blagues faites par une chaîne brésilienne, DMR, les blagues de DMR, invisible.
Genre surprise, surprise.
Voilà, des gens qui rentrent dans le parking pour récupérer leur véhicule et ils voient quelqu'un habillé en clown qui tue à coups de marteau quelqu'un allongé par terre et qui poursuit les gens. Bon, c'est des blagues, mais
c'est des très mauvaises
blagues. Ça devient viral, effectivement.
Bon, on a fait le point là-dessus. On n'en est pas là en France par rapport à ce qu'on va raconter dans un petit instant, je rassure tout le monde. Si vous voulez nous parler à la fois du phénomène ou de ce personnage épouvantable dont on va vous raconter avec Stéphane Bourgoin l'odyssée incroyable, parce qu'il aurait dû certainement être arrêté bien avant d'avoir réussi à tuer 33 adolescents. Vous pouvez nous appeler, bien sûr, 3210 ou RTL.fr pour les courriels. À tout de suite.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et aujourd'hui, donc, à la une de l'émission, l'histoire de ce tueur en série qui est certainement l'un des pires de l'histoire criminelle américaine, quoi qu'il soit difficile de trouver des superlatifs à chaque fois. 33 meurtres, c'est déjà beaucoup. Effectivement, il est rentré dans le Guinness Book of Records après sa condamnation en 80 parce qu'il était bien condamné pour 12 meurtres, mais également pour 21... il a eu 21 condamnations à perpétuité et 12 condamnations très exactement à mort pour ces 33 meurtres. On va en parler en détail avec donc mon invité Stéphane Bourgoin qu'on retrouve dans un tout petit instant. Juste le temps de faire le point justement sur parce qu'on va entendre un document RTL de l'époque qui date de quelques heures avant l'exécution de John Wayne Gacy, donc condamné en février 1980. Il va passer ensuite 14 ans dans les couloirs de la mort. mort, et il sera exécuté le 10 mai 1994. Et jusqu'au bout, il a pensé qu'il échapperait à son exécution. Et la veille, donc le 9 mai, la correspondante d'RTL aux États-Unis, Geneviève de Montgolfier, expliquait sur notre antenne que John Wayne Gacy attendait une grâce de dernière minute.
Il est l'un des 2800 condamnés qui attendent leur exécution depuis parfois des dizaines d'années dans les couloirs de la mort des pénitenciers américains. Mais John Gacy n'est pas un meurtrier moyen. C'est un serial killer. Entrepreneur, aisé, blanc, il aimait se déguiser en clown pour animer les soirées de ses voisins. John Gacy est l'un des plus sinistres criminels de l'histoire américaine. Il a torturé, violé, puis étranglé avec une corde à nœuds et un tournevis 33 adolescents. Mais Gacy ne veut pas mourir. Il s'est battu 14 ans pour éviter, selon ses propres mots, d'être sa 34e victime. Méticuleux, il inscrit dans son journal le contenu de ses repas, le temps qu'il fait et les résultats de son club favori. En dépit des divers appels et des opposants à la peine de mort qui se relaient devant la prison de Stateville, près de Chicago, l'exécution est désormais arrêtée pour lundi minuit. Si Gacy ne veut toujours pas y croire, il a néanmoins composé le menu de son dernier dîner et réservé sa place au cimetière.
Alors, Stephen Bourguin, disons tout de suite qu'il ne fait pas partie, il n'est pas de la génération de ceux que vous avez soupçonné d'être l'auteur du meurtre du Dahlia Noir, hein, en 1947, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé avec vous il y a quelques jours. Il n'est pas dans ce coup-là. Hein.
Ben non, il aurait été très précoce à l'âge de 5 ans, puisqu'il est né en 1942.
D'accord. Alors, vous l'avez rencontré pendant son incarcération, 2 ans, je crois, avant qu'il soit exécuté.
Fin 92, oui. Donc à peu près 18 mois avant son exécution.
J'ai lu quelque part, je voudrais vérifier avec vous, est-ce que c'est vrai qu'il a passé quasiment ses 14 années à peindre et entre autres à peindre des portraits de clowns, c'est vrai ?
Notamment des portraits de clowns, oui, et aussi beaucoup les personnages de Bambi et de Blanche-Neige et les Sept Nains. Ouais. Je possède d'ailleurs 2 tableaux de John Wayne Gacy dont il m'a fait cadeau lors de ma visite en prison. Et à l'époque, il avait même, dans les dernières années de son existence, un agent artistique qui le représentait, qui, tenez-vous bien, on le mettrait dans une fiction, personne n'y croirait, était entrepreneur de pompes funèbres à Baton Rouge dans Louisiane. D'accord. Et vous pouviez, vous-même, vous, moi, n'importe qui, envoyer votre photo en portrait à cet agent artistique contre monnaie sonnante et trébuchante.
Ouais, ouais, d'accord.
Et ensuite,
le portrait,
vous aviez votre portrait en tant que clown tueur ou en tant que personnage des sept nains.
Et ça, c'est admis par l'administration pénitentiaire.
C'était admis, oui, mais il n'avait pas le droit de toucher des subsides des ventes de ses peintures, fort heureusement.
C'est déjà ça. Sur ces 33 meurtres, tous n'ont pas été identifié, on va y venir avec vous dans un instant, mais d'abord prenons quelques instants pour raconter d'où vient cet homme, parce que ça s'est étalé sur des années et des années. Les 33 meurtres, c'est sur une période de 7 ans, mais il est intéressant de revenir sur l'histoire de cet homme. Il vient d'un milieu très relativement pauvre et défavorisé, je crois.
Oui, tout à fait. Et famille d'immigrés d'origine polonaise et danoise. Mmh. Et encore une fois, comme pour la plupart des tueurs en série, mais ça ne saurait en rien excuser leur crime d'adulte, il a une enfance marquée par des maltraitances.
Il y avait un père
alcoolique
très violent.
Très violent, fouettait, ouais. Qui dès l'âge de 3-4 ans, le bat avec une ceinture. Ouais. Une fois, le bat jusqu'à ce qu'il s'évanouisse à coups de manche à balai. Ouais. Il est violé à l'âge de 9 ans par un voisin.
D'accord.
Et du coup, comme son père l'insulte et le diminue vis-à-vis de ses sœurs en permanence en disant qu'il va devenir... Excusez-moi, je cite les paroles du père, un petit pédé, qu'il est un petit garçon à sa maman. Du coup, John Wayne Gacy n'ose pas parler de cet abus sexuel de la part d'un voisin lorsqu'il a 9 ans.
Ouais. Alors ensuite,
il commet des vols.
Il y a tout un enchaînement de petites délinquances, quoi, en fait, tout au long de son adolescence.
Oui, et puis il est très marqué. Et lorsque je lui parle de son enfance, alors qu'il a été toujours diminué par son père, battu. Il ne veut pas admettre qu'il avait une haine vis-à-vis de son père.
Donc ça devait étonner les psychiatres d'ailleurs, hein,
tout à fait.
Ce point-là. Et alors, bon, il y a ça. Et puis, il va rencontrer une fille. Enfin, après, il va avoir un début dans la vie qui aurait pu être même exemplaire. Il rencontre une fille dont le père, je crois, a des franchises de Kentucky Fried Chicken dans un état américain, et cet homme va lui, il l'aime pas beaucoup je dois dire, mais enfin il préférerait avoir sa fille pas trop loin de chez lui, et il va lui offrir d'être le patron d'un de ses restaurants, quoi.
Oui, ouais. Entre 1966 et 1967 il va gérer donc trois restaurants de Kentucky Fried Chicken. Et bien qu'il soit marié, il a déjà eu 2 ans auparavant des relations sexuelles, homosexuelles. Hein, et quelque chose aussi, lorsqu'il s'enfuit quelques années auparavant, c'est 3 années auparavant, oui. Il est à Las Vegas, il est employé pendant 3 mois chez un entrepreneur de pompes funèbres, il dort dans la cave de l'entreprise de pompes funèbres, ouais. Et là il raconte, ouais, qu'il a une relation sexuelle, ah, avec un des corps qui est en attente d'être embaumé. Ça, ah, c'est 3 ans avant qu'il dirige, ouais, ses restaurants.
Ces fameux restaurants. Alors là, il y aura des petits problèmes parce qu'il est très très autoritaire avec ses employés. Il est certainement, il est soupçonné en tout cas certainement d'avoir violé un certain nombre de ses employés. Sa femme s'aperçoit de rien.
Non, parce que pendant un certain temps, il a des relations intimes régulières avec cette épouse et ensuite avec une autre de ses épouses. Mais au bout d'un moment, à chaque fois, il dit qu'il ne veut plus avoir de relations sexuelles avec elle et il leur dit qu'il est bisexuel. Par contre, lorsque je l'interroge là-dessus aussi, il insiste beaucoup sur le fait qu'il est bisexuel, mais qu'il n'est absolument pas homosexuel.
Alors, on reviendra tout à l'heure au côté macabre et au côté tueur de cet homme, mais dans un petit instant, après une pause, il faut parler de quelqu'un qui a pu être pris comme un modèle du rêve américain, quelqu'un qui est monté dans l'ascenseur social, qui avoir des responsabilités dans sa communauté, comme on dit aux États-Unis, malgré ses accros judiciaires très très nombreux finalement, mais il va finir par être une sorte de notable, et vous allez même jusqu'à se faire photographier avec Rosalynn Carter, la femme du président Carter, photo qui trônera dans son bureau pendant des années. Donc, c'est un personnage extrêmement complexe et on va y venir dans un instant avec Stéphane Bourgoin.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Vous avez été très nombreux d'ailleurs ces derniers jours à nous contacter sur RTL.fr pour nous parler de ce phénomène qu'on évoquait avec Damien Delceni au début de l'émission, là, les clowns agressifs, et un certain nombre d'auditeurs, Stéphane Bourgoin, nous disait mais est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du clown tueur de Chicago, John Wayne Gacy? Donc un certain nombre d'auditeurs qui savent que on peut nous demander par l'intermédiaire d'RTL.fr de programmer telle ou telle émission, nous l'ont demandé. On va revenir sur la vie maintenant de cet homme, mais alors il faut bien que les gens ceux qui nous écoutent comprennent que il y a aucune complaisance, et si on vous raconte toute sa vie, j'allais dire non criminel, mais c'est très difficile à dire puisque en fait c'est un mélange, hein, parallèle, c'est vraiment Jekyll et Hyde, hein. D'ailleurs il dira quand il sera interrogé après avoir été arrêté que c'est pas lui qui tuait mais c'était un certain Bad Jack, hein, je crois. On vous raconte ça parce que ça pose encore des questions aujourd'hui, c'est comment n'a-t-on pas pu détecter le fait que cet homme était un des pires tueurs en série de toute l'histoire. Donc vous l'avez dit, il se marie, il devient gérant d'un de ses restaurants, mais en même temps, il a vraiment déjà des problèmes avec la justice, puisqu'il y a des employés qui l'accusent de les avoir tabassés ou d'avoir voulu les violer. Que dit la police à ce moment-là ?
Ben, la police l'arrête en 1967 pour ses premières agressions sexuelles qui sont commises vis-à-vis des employés de ce
restaurant. Et lui dit c'est pas vrai, ils veulent me faire du tort parce que entre-temps, et on a dit qu'on allait en parler aussi, il est en train de monter dans l'ascenseur social. Qu'est-ce qu'il fait d'autre pour asseoir son image,
on va dire. Cette époque-là, ça fait 7 ans qu'il est inscrit au Parti démocrate et il est militant, il organise des réunions, il participe aussi, vous savez, les Américains sont très associatifs, il y a les Lions Club, et là, il préside très jeune une association qui s'appelle les JCs, et il fait tripler...
C'est une sorte de chambre économique, quoi.
Voilà, et de commerce, il fait tripler les adhésions de cette branche où il est dans l'Illinois, donc il est très très actif.
Il devient un notable, quoi, en fait.
Il devient en quelque sorte un notable.
Même si les gens disent, oh ouais, mais il raconte des histoires, enfin,
beaucoup de gens disent
qu'il est un peu mytho, quoi.
Il est très mythomane, par exemple, il affirme qu'il participe aussi à des rondes avec les policiers. Ouais. Il a une fausse plaque de police qu'il va utiliser d'ailleurs pour kidnapper un certain nombre des jeunes fugueurs. Ouais. Et il est quand même condamné en 1968 à 10 ans de prison pour une agression sexuelle dans l'Iowa. Mais il n'en purgera que 18 mois. Ouais. Et après, il est mis en libération conditionnelle.
Voilà,
il
quitte l'État. Entre-temps, sa femme a divorcé.
Tout à fait.
Et donc, il va se remarier plus tard.
Il quitte l'État de l'Iowa pour s'installer dans son État natal, l'Illinois. Mm-hmm. Et sa mère lui achète une maison qui sera la maison du crime, non loin de Chicago, où il va commettre quasiment tous ses meurtres. Là aussi, il va se remarier avec une amie d'enfance, mais très rapidement, il va arrêter toute relation intime avec elle, mais il fonde une société dans le bâtiment de construction qui s'appelle PDM, Constructors, et il va profiter de ce fait qu'il est employeur pour faire miroiter à des jeunes adolescents un emploi éventuel.
Oui, parce qu'il est très radin. Il essaye de gagner le maximum d'argent. Il explique que en employant des jeunes, il les paye moins, donc c'est moins cher, que les profits sont plus grands. Alors ça, c'est un discours qui est apprécié aux États-Unis. On dit voilà, quelqu'un, chef d'entreprise dynamique, etc. Et il a, alors cela dit, cette espèce de chantage avec ces jeunes. Il crée une sorte de chantage.
Alors à la fois, il va s'attaquer à des employés de sa société, ce qui est assez fou parce qu'il y en a 3 d'entre eux qui sont agressés, qui vont le dénoncer, et la police ne fait rien. Alors que
comment ça s'explique? Parce que vous disiez, son casier judiciaire n'a pas suivi.
Donc, pour les autorités de l'Illinois, son casier judiciaire est vierge. Il a commis aussi une agression sexuelle où il est allé avec un employé pour décrocher un contrat en Floride. Oui. Il le viole aussi pendant la nuit dans un motel. Oui. Mais là aussi, son casier judiciaire ne suit pas auprès des autorités de Floride.
Et il s'en tire toujours en disant « Oui, mais il m'a agressé, je suis tombé dans un piège, il a dit ça parce que pour me nuire, parce que je suis quelqu'un de connu. » Et ça marche auprès des policiers.
Ou alors, il prétend, et il est menteur, ne l'oubliez pas, depuis l'âge de 10-11 ans, donc il a une pratique, et moi je peux vous l'assurer qu'il est interrogé, extrêmement manipulateur, menteur, et assez convaincant. Il prétend que c'est une relation consensuelle, mais qui est sadomasochiste.
Donc, relation partagée, acceptée, voilà, il s'en sort quand même d'une manière absolument incroyable. On va faire une pause, et dans un instant, on va en venir à son rituel, ou à ses rituels, parce qu'il a des rituels pour attirer ses victimes et pour les tuer. Et en même temps, on va s'apercevoir que même quand un certain nombre de jeunes gens qui ont été vus avec lui disparaissent, eh bien, la police va mettre ça sur le compte de fugue ou de malveillance, encore une fois. Et vous allez nous dire comment, évidemment, le poteau rose a été découvert.
L'heure du crime sur RTL.
On vous raconte la véritable histoire de John Wayne Gacy, donc le clown tueur de Chicago. Mon invité Stéphane Bourgoin connaît cette histoire en détail, d'autant plus que vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez interrogé, interviewé, je sais pas comment il faut dire. Enfin, vous l'avez rencontré, en tout cas dans son couloir de la mort. On viendra tout à l'heure à ce qu'il vous a dit et aux renseignements éventuellement que vous avez pu retirer, aux enseignements que vous avez pu retirer cette rencontre. Mais d'abord, on va raconter comment il s'est fait prendre. Ça a duré 7 ans. On va s'apercevoir a posteriori que le premier meurtre de John Wayne Gacy intervient à peine un mois et demi après sa libération conditionnelle à 10 ans de prison. Donc il fait 18 mois, vous l'avez dit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a 27, 28 ans, quoi. Hein, c'est un jeune tueur en série. Alors, il a cette double personnalité, enfin apparente. Il va amuser les enfants avec ce masque de clown. Enfin, c'est pas un masque, hein, il se grime en clown, Pogo le clown. Et Pogo le clown fait des tours de magie pour les enfants. Et il va utiliser cette... je sais pas comment on peut dire, d'ailleurs. Cette technique, quoi, pour les gens qui va faire tomber dans son piège.
Alors, oui, ça va être à partir du deuxième ou troisième meurtre, puisque le premier meurtre, c'est le 2 janvier 72, où là, il prend un fugueur à une station de Greyhound, de
gare routière.
Bus, ouais. Gare routière. Mmh. Ça va être un de ses modes opératoires. Hein,
oui. C'est-à-dire qu'il zone avec sa voiture, voilà, et sous un prétexte, il fait monter ces jeunes gens dans la voiture, et là, il les chloroforme, enfin...
Ou il leur offre de l'alcool qui est drogué, avec des barbituriques, et avant de les tuer. Oui. Là, le premier meurtre est commis avec une arme blanche, ce qui ne sera pas son mode opératoire par la suite, puisqu'il va asphyxier ses victimes avec une sorte de tourniquet, ou les noyer pour certains. Il y en a d'ailleurs, un d'entre eux va échapper à la noyade avant de porter plainte sans que les policiers, encore une fois, ne donnent suite. Mais pour en revenir à son tour de magie, hein, c'est le coup des menottes. Donc, soi-disant, c'est des menottes qu'il a achetées dans un magasin de farce et attrape.
Qui sont donc truquées.
Qui sont truquées.
Il y a un truc, quoi. Enfin, il y a un truc, en tout cas.
Qui permettent à celui qui est menotté de pouvoir les défaire. Donc, tout le monde connaît plus ou moins ce truc, sauf que dans ce cas spécifique, lui a acheté des véritables menottes.
Bien sûr,
qui ne peuvent pas se défaire.
Ce qui fait que les jeunes gens un peu naïfs qui sont d'accord pour le tour de magie, vont se retrouver prisonniers à la merci de ce type.
Et curieusement, il racontera qu'il s'est inspiré du tour des menottes sur un trio de tueurs en série à Houston, qui datent des années précédentes, début des années 70, qui ont été appelés les Houston Mass Murderers, les tueurs de masse de Houston, Dean Korn, Elmer Wayne Henley, que j'ai interrogé il y a quelques années de cela, qui là aussi menottaient leurs victimes, des adolescents, et qui en ont tué 27.
Mais lui, pour être sûr que les victimes prennent les menottes, il parlait de ce tour de magie, et avec un cynisme.
Et les trois premiers tueurs en série d'Houston faisaient pareil, déclaraient la même chose aussi.
Et lui, évidemment, avec un cynisme terrible, puisque une fois que les victimes étaient menottées, il disait, le secret du tour, c'est qu'il faut avoir les clés, quoi. Voilà.
Tout à fait.
Et ça a été raconté par un certain nombre de survivants, parce que... Alors, bon, on va pas s'étendre sur tous ces meurtres, c'est terrible, la litanie, 33 personnes quand même, ça dure pendant 7 ans. Qu'est-ce qui fait des corps ?
Les corps, il y en a 4 qui vont être 4 ou 6, suivant ce qu'il a pu déclarer, ce qu'il a pu mentir, ont été jetés dans la rivière des Plaines, qui est près de Chicago. Tout le reste des corps ont été enterrés, souvent la plupart du temps toujours ligotés. et avec un chiffon ou un tissu enfoncé dans la bouche pour que les fluides ne s'écoulent pas, ont été enterrés dans le sous-sol de sa propre maison entre 1972 et 1978.
Ouais. Alors, il mettait de la chaux, de l'acide chlorhydrique, etc. Mais tout le monde a parlé a posteriori. C'est encore un étonnement dans cette affaire. Il y a une odeur pestilentielle de temps en temps et on comprend, quand on sait, on comprend pourquoi. Mais comment on est passé encore une fois à côté?
Il a été un peu plus prudent très rapidement au lieu de la chaux. Oui. Il a fait aussi installer du béton.
Ah oui.
Par-dessus
il a coulé du béton.
Voilà. Par ses employés, hein. Oui. Alors, qui donc enterraient souvent leurs propres camarades, soi-disant sans le savoir. Oui. Parce qu'on parle que peut-être la police n'a pas poursuivi l'enquête à fond, et certains évoquent, notamment des agents fédéraux du FBI, la possibilité qu'il ait eu un ou deux complices.
Alors, on va faire une pause, on en a besoin dans ce genre d'histoire, et ensuite on va vous raconter comment il a été pris, hein, parce qu'il y a toujours l'événement, c'est-à-dire plus ça va, plus il pense, lui, qu'il échappera pour toujours à la police. Vous allez nous raconter exactement comment il a été pris, et puis ensuite ce qui s'est passé au cours du procès, bien sûr.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Alors c'est la dernière partie de cette heure du crime consacrée à l'incroyable histoire de John Wayne Gacy avec Stéphane Bourgoin. Sous 1976, il divorce avec sa deuxième épouse, finit par s'en aller. Là aussi, on en parlait hors micro, c'est incroyable. Elle, cette femme, trouve dans la maison des vêtements d'adolescent, lui demande, mais il dit, ben non, c'est rien, je sais pas, quelqu'un a oublié ça. Enfin, comment est-ce que c'est possible?
Parce que John Wayne Gacy a l'habitude de faire aussi des soirées où il invite un certain nombre de ses jeunes adolescents, de ses employés,
c'est quelqu'un qui a oublié,
qui viennent le chercher pour l'emmener au travail. Oui. Et donc, ça fera partie aussi de sa défense. On en parlera plus tard au moment du procès.
Oui, bien sûr. Alors là, en fait, il va se faire prendre en décembre 1978. C'est-à-dire, pendant deux ans, il est tout seul dans cette maison. Il peut faire ce qu'il veut et ça s'accélère, hein, si j'ai bien compris. Cette année 78 vous paraît très très importante, hein, dans l'histoire de cet homme.
Il se fait arrêter donc vers le 22 décembre 78. Oui. Mais il faut revenir au début de l'année. Oui. Alors, le 6 janvier 78, il y a un adolescent, Robert Donnelly, qui échappe de peu à la noyade. Oui. Il le noie dans sa baignoire,
Il le sauve au dernier moment.
Oui, il le sauve. Voilà. Et qui porte plainte contre John Wayne Gacy. Et là, il apparaît enfin dans les dossiers des policiers du comté de Cook.
D'accord.
Et qui décide de ne rien faire parce qu'il parvient à les convaincre que ça fait partie d'un rituel
sadomaso. Voilà.
Et alors, très peu de temps après...
Très curieux, les policiers.
Oui. En mars 78, un autre jeune homme, Jeffrey Ringwald, est pris à bord du véhicule de John Wayne Gacy. Il l'emmène, il sort d'une bretelle d'autoroute, l'emmène dans les bois.
Après l'avoir chloroformé.
Mais
il rouvre les yeux un moment et il reconnaît la sortie d'autoroute.
Hein. Il reconnaît la sortie d'autoroute et la marque du véhicule, une Oldsmobile noire. Ouais. Et il décide, avec des amis, pendant plusieurs semaines, ils se mettent à l'affût de cette bretelle et de sortie d'autoroute.
Parce que je voulais juste préciser pour ceux qui nous écoutent, que vous connaissez l'histoire par cœur, cet homme-là, il est enlevé. Il est chloroformé, mais pas complètement, puisque il s'aperçoit à un moment, il reconnaît une sortie d'autoroute. Ensuite, Gacy le rechloroforme. Ensuite, c'est le trou noir. Il sait plus ce qui se passe. Il se réveille pas chez Gacy. Il se réveille dans la nature.
Dans la nature. Voilà. Et
mais il se souvient de ça.
Violé et torturé par John Wayne Gacy. Voilà.
Et il a été massacré. On peut le dire. Et il se souvient.
Il se souvient tout à fait. Ouais. Et il va reconnaître le véhicule et le conducteur. Et avec ses amis en voiture, ils vont le suivre jusqu'à son adresse du 8213 West Summerdale.
Et là, ils appellent
les policiers. Et encore une fois, John Wayne Gacy, qui est arrêté donc quelque temps après le 15 juillet 1978, est mis en examen, mais laissé en liberté, en attente de son procès.
C'est incroyable.
Alors, là, on est au mois de décembre. 11 décembre 1978. Ouais. John Wayne Gacy est dans une pharmacie et il croise la route d'un jeune homme, Robert Pist, qui cherche un emploi. John Wayne Gacy l'aborde et lui dit qu'il peut lui proposer un emploi dans sa société PDM Constructor.
Voilà, alors les parents évidemment signalent tout de suite cette disparition.
Oui,
et là il y a un policier, on peut le dire, un plus fut que les autres quand même, quoi, hein, qui a peut-être plus d'expérience aussi, qui tout de suite voit que c'est une disparition inquiétante, qu'il est arrivé quelque chose à ce jeune homme, et il va se mettre sur la piste de Gacy.
Il va se mettre sur la piste, ouais. Et il va fouiller dans les archives et retrouver traces d'agressions précédentes, oui. Oui. Et de témoignages d'anciens employés de cette société.
Voilà,
donc
d'accord.
Tous les employés de la société de John Wayne Gacy vont être interrogés, oui. Et à partir de là, les policiers vont émettre un mandat de perquisition, mmh. Et à l'aide de chiens renifleurs vont pouvoir déterrer et trouver tout le cimetière privé avec les 26 corps enterrés dans les fondations de la maison de John Wayne Gacy. Voilà.
Et puis au fil des semaines, on va retrouver d'autres cadavres, donc au fil de la rivière, hein, qui avait été bloquée par des branchages. Et donc c'est la fin de l'histoire, là.
Mais il nie, hein. Il nie toujours.
Enfin, il dit à son voisin.
Sauf dans un moment de faiblesse, oui. Il avoue aux policiers,
oui.
Mais malheureusement, la procédure,
oui.
N'est pas actée.
D'accord,
officiellement.
Oui. Mais il a dit à un de ses voisins.
Il a dit aussi,
30,
oui.
Que le voisin va voir les policiers. Il m'a dit qu'il en avait tué 30.
Oui.
C'est énorme, quand
il
même.
Il est toujours dans le mensonge et la manipulation. Voilà. Il indique, par exemple, qu'il a fait faire 12 paires de clés différentes de son domicile, qu'il n'y habite qu'à peu près un tiers de l'année et que le reste du temps, il laisse la liberté totale à ses employés d'utiliser la maison.
Donc, il doit y avoir un tueur dans ces gens-là, quoi.
Oui.
Ouais.
Et il dit qu'effectivement, à deux reprises, il a vu des corps, et il a aidé un de ses employés qu'il accuse d'avoir commis les crimes à enterrer les corps parce qu'il ne voulait pas que ça se sache. Voilà quelle est sa défense.
D'accord, mais enfin finalement les policiers vont recoller les morceaux, on va s'apercevoir que il y a une espèce de terrible d'ailleurs préméditation, parce qu'après les avocats vont dire il était sous le coup de coups de folie, etc. Il a quand même fait creuser des canalisations dans lesquelles il a enterré les gens qui avaient creusé pour lui, quoi.
Donc tout à fait.
Bon,
hein.
Voilà. Alors le procès, j'imagine, parce que je surveille l'heure, il nous reste deux minutes avant la fin de l'émission. Le procès, évidemment, c'est écrit d'avance. On sait qu'il est responsable.
C'est 5 semaines d'audience
et 2 heures de délibération. Hein,
il va plaider là cette fois-ci la folie, l'irresponsabilité, le fait qu'il a eu des trous noirs dans son adolescence. Qu'il se droguait au Valium parce que c'était un fou de travail. C'est vrai qu'il bossait 80 heures par semaine, mais ce ne sera pas retenu. Et donc, il est condamné à 12 peines de mort et à 21 réclusions criminelles à perpétuité.
Qu'est-ce qui se passe quand on pénètre dans la cellule d'un type comme ça, comme ça vous est arrivé
Alors, je ne l'ai pas vu dans sa cellule. J'ai eu droit à la visite de la cellule de John Wayne Gacy.
En son absence,
Non, en sa présence.
Ah bon.
Où il m'a montré, j'étais stupéfait qu'il puisse posséder cela. Il avait des albums photos où il y avait tous les corps photographiés de ses victimes qu'il possédait dans sa cellule. Bon. Et on peut imaginer qu'il y trouvait un grand plaisir. Hein.
Oui, d'accord. Donc des peintures, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que, enfin, qu'est-ce que vous lui demandez? Comment on peut mener une conversation avec un type comme ça? Vous lui dites, non, c'est vrai.
Il est tout à fait dans la manipulation, le mensonge.
Allez, je dis qu'il est là.
Qu'il est innocent. Il a juste participé. Après les meurtres, au fait d'avoir enterré certains décors, il reconnaît juste le premier crime, celui de janvier 1972, parce qu'il dit que ce jeune homme, qu'il a pris dans une gare routière, est arrivé dans sa chambre un couteau à la main, et que donc il l'a désarmé.
Donc il continue, pendant ses 14 ans de couloir de la mort, après cette condamnation absolument historique, à nier, quoi, finalement.
Mais en même temps, il me raconte, de manière plus ou moins déguisée, qu'il est malgré tout très fier d'être reconnu comme une célébrité et comme le plus grand tueur en série de tous les temps.
Parce qu'il y a donc des c'est groupes assez de musique qui c'est assez paradoxal, il y a des hein. films, il y a des bouquins et il tient une comptabilité de tout ça, enfin,
oui.
la gloire.
Oui oui.
Et gloire médiatique.
Et vous savez quelles sont ses dernières paroles juste avant son exécution?
Comment ça se traduit?
Ah bah ça se traduit embrasser mes fesses, ouais, en fait c'est allez vous faire foutre, voilà.
Donc jusqu'au bout, voilà, il a été égal à lui-même. Je vous remercie beaucoup. On ne souhaite pas évidemment qu'il ait d'imitateur. Je pense que c'est quand même un cas unique dans les annales du crime aux États-Unis. Merci Stéphane Bourgoin de l'avoir évoqué avec nous. Et je rappelle votre grande connaissance de ce monde des tueurs en série a fait que vous avez mené l'enquête sur le meurtre toujours inexpliqué officiellement du Dahlia Noir aux États-Unis. C'est votre dernier livre paru aux éditions Ring. Et je le redis, je l'avais dit à l'époque, c'est absolument passionnant. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'émission est terminée. On retrouve Flavie Flamand pour se détendre dans un instant.